Je le suivis, m'abritant dans l'ombre des arbustes, ramassé sur moi-même, silencieux comme un fauve. Lorsqu'il mit le pied sur l'escalier d'eau, je m'élançai, le saisissant d'une main à la gorge pour arrêter tout cri au passage, et de l'autre main, d'un seul coup, lui plongeant le poignard jusqu'au cœur. Ah, il faut bien qu'aucune haine n'égale celle qui a l'amour pour cause, car moi, qui n'aurais pu sans m'évanouir égorger un agneau, je n'éprouvais nulle horreur, nulle pitié, mais une joie féroce, une rage à peine assouvie. Le ciel orageux était très sombre, la nuit épaisse. Cependant, mon ennemi dut voir par qui il mourait, car je penchai longtemps mon visage sur son agonie, sans prononcer un mot, sans que ma main crispée laissât échapper un râle des lèvres du mourant. « Tu n'as fait que me devancer, Léone !» s'écria Claudia, qui, haletante, buvait les paroles de son époux. « Je l'aurais tué le soir des noces !» Léone, dont le récit m'avait comme changé en statut, jeta sur moi un regard de triomphe. Sa femme, pour l'absoudre, n'avait pas eu une seconde d'hésitation, et ce pardon-là lui suffisait. Il la serra contre son cœur et continua d'une voix plus ferme. Je me relevai quand tout tressaillement de vie eut cessé. Je poussai alors un large soupir, je respirai avec un indicible soulagement. Ce qui avait fait mes nuits pleines d'angoisse, cette pensée sous laquelle je me tordais de rage et de désespoir, elle était morte à jamais. Claudia, à lui. Jamais ces mots ne pouvaient se joindre maintenant, j'en étais enfin délivré. Il s'éparpillait, désuni, à tous les souffles de cette nuit tumultueuse. Châtiment, séparation, la bien-aimée perdue pour moi, ces tortures étaient préférables à celles qui venaient de me faire grâce. Cependant, j'étais bien résolu à cacher le mieux possible ce que les hommes appelleraient un crime, à en profiter complètement, et je ne négligeais aucune précaution. Je me souvenais, et c'était plutôt un souvenir gardé par mon œil que par ma mémoire, d'une brouette au coin d'une allée, et dans cette brouette, jeté et comme oublié, une bêche et un râteau. J'avais vu cela en arrivant au furtif rendez-vous que nous croyions le dernier. Si cet outil par hasard n'était plus là, ma situation se compliquait. Je courus vers l'allée et dans ma précipitation, je heurtai la brouette dont les instruments tombèrent avec un bruit qui m'effraya. Je m'étais rapproché de la maison. Je regardai vers elle comme malgré moi. Tout était éteint au rez-de-chaussée, plusieurs fenêtres du premier étage brillaient encore. Je cherchais celle de Claudia. Pauvre amie, je la devinais abîmée dans les larmes, se tordant les mains, maudissant le sort, et j'eus envie d'aller lui jeter une parole d'espérance. Mais je résistais à ce désir, il fallait qu'elle ignorât tout, qu'aucune peur ne pût venir troubler son bonheur. Je revins vers le mort et je le traînai dans l'angle du pilier, là où l'ombre s'amassait avec le plus d'intensité. Puis je rajustai mes vêtements, que la lutte muette avec mon rival avait dérangé. Je pris son paletot tombé à terre et je l'endossai. Je descendis alors rapidement l'escalier. Ce paletot était tout à fait particulier et reconnaissable. C'était un manteau de voyage, ample, avec une ceinture lâche qui se boutonnait à la taille. Il était d'une couleur noisette claire et parsemé de larges boutons en os. J'étais à peu près de la même stature que le comte et ma barbe était taillée comme la sienne. Toute la ressemblance d'ailleurs s'arrêtait là, mais par une nuit aussi sombre et grâce au pardessus si reconnaissable, cette ressemblance pouvait suffire. Le batelier dormait dans sa barque. Il n'avait rien entendu, rien vu. Il n'y avait rien eu à entendre d'ailleurs et rien autre à voir que l'obscure nuit. Je le secouai en sautant dans la barque. Il s'éveilla vite et se mit à ramer rapidement. L'atmosphère lourde pesait sur l'eau immobile, plombée. De l'autre côté de la baie, les lumières de Naples se reflétaient en longues traînées rousses. On entendait distinctement les rumeurs de la ville, tant la mer était silencieuse. Nous touchâmes au quai et je me dirigeai à pied vers le paquebot, en ayant soin de rabattre mon chapeau sur mes yeux et d'allumer un cigare. Je savais que le domestique de Scala s'appelait Martino, mais je n'avais jamais remarqué son aspect physique. Je n'avais même peut-être jamais vu ce garçon. C'était là un point qui m'inquiétait. Martino attendait assurément son maître au bateau, il fallait qu'il me vît et me prît pour un autre. Cela arriverait-il ? Les fanaux du navire éclairaient confusément. il y avait sur la passerelle, reliant le bateau au quai, ce brouhaha, ce va-et-vient spécial à la dernière heure d'un départ. Je m'avançai bravement, enveloppé de la fumée de mon cigare. Comme je l'avais espéré, Martine vint droit au paletot en soulevant sa casquette. « Je craignais que monsieur le comte n'arrivât trop tard, » dit-il. Je répondis par un grognement quelconque en serrant mon cigare entre les dents pour mieux masquer ma voix. « J'ai retenu une très bonne cabine, » continua-t-il. « Les bagages de monsieur le comte y sont déjà. Voici les clés. »« Bon, » murmurai-je, « voyons la cabine. » Martine descendit devant moi et je le suivis. C'était là une grave imprudence, car l'entrepont était brillamment éclairé, et en moment, je crus tout perdu. Mais j'eus le temps de tirer mon mouchoir et d'y plonger mon visage au moment où la lampe l'éclairait en plein, et tandis que le domestique s'effaçait devant moi pour me laisser entrer dans la cabine. Je m'arrangeai pour lui tourner le dos pendant le reste de l'entretien, que j'abrégeai le plus possible et qui me parut interminable. « C'est parfait, dis-je, tu peux aller te coucher, je n'ai besoin de rien. » Mais il ne se retira pas tout de suite. Il arrangea le lit, prépara un grog et m'indiqua le sac où il avait serré des provisions de bouche, énumérant tout ce qu'il y avait accumulé. Il me dit aussi que les cigares étaient dans le premier compartiment de la malle. Ces quelques minutes furent pour moi pleines d'angoisse, mais il s'éloigna enfin sans avoir conçu le moindre soupçon. Bientôt, je remontai sur le pont, je tenais à être vu par le capitaine. J'allai le saluer. « Le comte Scala, » me dit-il. Je m'inclinai. « Nous partons malgré cette menace d'orage, » lui demandai-je. « Il le faut bien. Dans combien de temps ?»« Dans 10 minutes. » Je n'avais pas un instant à perdre. Je redescendis dans la cabine et avec une précipitation fébrile, j'ouvris les sacs. J'en tirai les provisions, les objets de toilette que je disposais de côté et d'autre. Au lavabo, je lavai mes mains où il y avait peut-être du sang. J'ôtai ce manteau qui m'avait si bien déguisé et le jetai sur le lit que je froissais. Puis j'attaquai les provisions, fourrant des morceaux dans mes poches. Je bus même tout un flacon de vin. Le temps pressé, je jetai un dernier regard sur cette cabine qui semblait si bien avoir été habitée et j'en sortis, refermant soigneusement la porte. Je remontai et je parvins à quitter le navire sans avoir été remarqué. Quelques instants après, le sifflet de la machine annonçait le départ. La comédie était jouée. Il fallait revenir maintenant aux plus lugubres scènes du drame. Je ne voulus pas prendre une barque pour retourner à la villa, le batelier eût été un témoin dangereux. Il me fallait donc faire le grand tour par le fond de la baie. L'orage imminent rendait les routes désertes. Je fis une partie du chemin en courant, sans rencontrer personne. Le premier éclair cingla l'horizon au moment où je mis le pied sur la première marche de l'escalier et un grondement sourd roula sur la mer. Je remontai lentement les degrés, vaguement effrayé, dans la nuit plus noire après la lueur. Si mon ennemi n'était pas bien tué, s'il n'était plus là, s'il fallait recommencer le meurtre sur un blessé. Je ne retrouvai pas tout de suite l'endroit où j'avais laissé la victime. En vain, dans l'obscurité, je tâtai, craignant de trouver le cadavre sous ma main, craignant plus encore de ne pas le rencontrer. Une sueur froide m'inondait. Brusquement, je touchai sa face glacée et un mouvement d'effroi involontaire me fit reculer avec un cri étouffé. En même temps, un nouvel éclair me montra son visage horrible, les yeux béants, la bouche ouverte. Si j'avais gardé jusque-là un sang-froid extraordinaire, je faillis succomber à la terreur superstitieuse qui m'envahit alors. L'orage éclatait avec une furie effrayante, la mer subitement grossie, ajoutait son grondement au fracas du tonnerre, le vent soufflait en tempête. Je crus vraiment le ciel déchaîné contre moi et j'eus envie de m'enfuir pour échapper surtout à cette face terrible, apparue et disparue, et qui, dans l'intermittence des lueurs, semblait s'agiter. J'eus la force de réagir pourtant et je me mis à creuser le sol. À quoi bon vous dire toutes les tortures que m'infligea ce labeur? Sous les torrents de pluie qui m'écrasaient, dans ce tumulte des éléments, sous ce ciel furieux que le reflet du Vésuve, par moments, empourprait comme une fumée d'incendie, cette lassitude presque invincible qui me paralysait, ce trou qui s'emplissait d'eau, se mord regardant de ses yeux fixes creuser sa tombe. Je me crus plusieurs fois la proie d'un épouvantable cauchemar et je souhaitais que des flots de lave vinssent ensevelir, avec tout souvenir, la victime et le meurtrier. Quand tout fut fini, le jour commençait à poindre et l'orage s'éteignait. La clarté blafarde du matin me rendit un peu de calme et me permit d'effacer toute trace du meurtre. L'orage m'avait servi en amollissant et en ravinant le terrain, la pluie avait lavé les taches de sang. Je remis les outils à la place où je les avais trouvés et je m'enfuis chez moi où, exténué, je dormis 24 heures de suite. Le reste, vous le savez, la présence du comte à bord du paquebot ayant été bien établie par mon audacieuse apparition, le paletot retrouvé, la cabine en désordre, les phrases échangées avec le capitaine et le valet de chambre ne permettaient aucun doute. Il n'y en eut pas, d'ailleurs, la disparition d'un des passagers fut expliquée le mieux du monde par un de ces accidents si peu rares en mer. La traversée avait été dure, la nuit très sombre. À travers l'inquiétude de la manœuvre et le bruit de la tempête, un homme pouvait avoir été emporté par un coup de mer sans que personne vît le malheur et donna l'alarme. Claudie, à libre par cette mort, son père n'eut plus de raison pour me la refuser. Elle devint ma femme et le bonheur céleste de cette union emplit seul mon âme et noya le souvenir du rival sacrifié. J'évitais cependant d'habiter la villa de Portici. Mais Claudie parla de la vendre puisqu'elle me déplaisait et j'y revins pour la détourner de cette idée dangereuse. La première fois que je revis l'habitation, j'étais seul, je devais annoncer et préparer notre installation. Quelque chose nous attire toujours vers ce que nous devrions éviter. Je voulus retourner à ce coin du parc que j'aurais dû fuir, à la terrasse du bord de l'eau. J'allais donc lentement, la tête basse, repassant malgré moi par toutes les angoisses de la nuit criminelle, cherchant la place de cette tombe furtive, à jamais inconnue. Tout à coup, je poussai un cri d'épouvante. À cet endroit même, que moi je connaissais bien, à cette place nue, choisie exprès loin de toute végétation, de tout massif, où la bêche du jardinier put venir fouiller, à travers les cailloux blancs qui sablaient le terrain, je vis se dresser ce buisson terrible, ce hérissement gorgonéen, ces fleurs sanglantes, aux dards menaçants comme le fouet des érinies. Qu'est-ce que c'était que cette épouvantable éclosion? Tout cela me semblait hurler, se tordre, dénoncer. Comment cette plante avait-elle poussé sur ce mort? Je me précipitai pour l'arracher, elle était inébranlable et je m'ensanglantais les doigts aux épines. J'allais revenir à la charge lorsque je vis arriver un jardinier. Il vint à moi rapidement. « Justement, je voulais demander à monsieur, dit-il. Je n'osais pas déterrer sans ordre cette drôle de plante venue là, on ne sait comment, et qui vous a un air diabolique. »« Déterrer, m'écriai-je. Déterrer, qu'est-ce que vous dites ?» Et je me sentis blêmir, mais je compris que je me perdais et je suis retrouvé mon sang-froid. « Gardez-vous bien de l'arracher, dis-je, cette plante est très précieuse et j'y tiens beaucoup. »« On pourrait la changer de place ?»« Non, non, elle mourrait sûrement, je vous défends de la toucher et vous m'en répondez. » Je crus pouvoir oublier cette hideuse plante que la peur m'obligeait à conserver. Mais elle avait blessé mon esprit par tous ses dards vénéneux, elle s'y était logée à jamais. C'était une hydre vengeresse qui me dévorait, et maintenant, mon bonheur était doublé d'épouvante. J'évitais le côté du parc où croissait ce remords épanoui, mais je le sentais croître, devenir buisson, taillis, forêt. Je voyais ses gestes de menace, je croyais entendre ses cris de vengeance. Ah, je savais bien qu'il nous atteindrait. Léon, qui peu à peu avait perdu le calme du commencement et s'était même exalté jusqu'à la fièvre, cessa de parler et attacha sur son fils mort un regard chargé de détresse. Claudie a pleuré sur le cœur de son époux. Il semblait avoir complètement oublié ma présence. J'avais passé durant ce récit par des sentiments très divers. L'horreur, la colère qui me bouleversait, avait fait place insensiblement à un intérêt involontaire, à une faiblesse coupable qui me poussait à regretter presque que le crime fût découvert. C'était moi qui avais fourni au mort le moyen de faire surgir sa vengeance du fond de sa tombe, je n'étais pas loin d'en être fâché. L'amour est une excuse bien puissante. Un être possédé par lui n'est certainement plus maître de soi. S'il est menacé dans sa passion, il défend bien plus que sa vie. Et un homme qui défend sa vie, n'est-il pas tout pardonné ? Aimé de Claudire, de quoi n'aurais-je pas été capable moi-même ? Toutes ces idées s'agitaient confusément dans le brouhaha de mon cerveau et étaient bien loin de la netteté avec laquelle je les exprime. Pourtant, je dis tout haut, presque malgré moi, « Comment échapper à la justice ? Ces jardiniers affolés vont donner l'alarme. Est-il encore temps de fuir ?» Ma voix fit tressaillir les deux époux, ils tournèrent brusquement les yeux vers moi. « Oui, oui, fuyons !» s'écria Claudia. « Viens, emportons notre pauvre enfant et allons à l'autre bout du monde !» Léon secoua la tête et retint sa femme dans ses bras. On entendait comme une rumeur dans le parc. « Écoute, dit-il en prêtant l'oreille, il est trop tard, mais du moins on ne me prendra pas vivant !» Claudia poussa un cri et étreignit Léone avec passion. « Tue-moi d'abord, gémit-elle, je ne veux pas te voir mort !» La jeune femme avait ses beaux cheveux en désordre sous les lèvres de son époux. Dans cette toison ondoyante, le rouge d'une fleur éclatait. Lui cherchait tout alentour, du regard, une arme sans doute. Tout à coup, en même temps que les siens, mes yeux s'arrêtèrent sur cette fleur. Il eut un tressaillement et un mouvement de recul involontaire. Mais aussitôt, il se pencha vers sa femme, baisa d'abord avec amour sa chevelure, puis jeta ses lèvres sur la fleur qu'il dévora. « Arrêtez, arrêtez » criai-je en m'élançant vers lui. « La fleur serpent, encore ! Ah, comme il se venge !» Léone leva sur moi un regard plein de douceur. « Merci, me dit-il, veillez sur elle !» Claudia s'était dressée plus pâle qu'un spectre. Elle vit le visage de son époux qui se convulsait, ses lèvres ensanglantées. Elle ouvrit la bouche comme pour crier et, sans un souffle, tomba inanimée sur le tapis. Un an plus tard, à peu près à la même époque, vers la fin de l'automne, une calèche attendait devant la porte d'une jolie maison, que j'avais louée dans une des rues les plus tranquilles de Naples. C'était là que, depuis un an, je disputais à la mort l'infortunée Claudia, qu'une fièvre chaude avait terrassée en ce jour terrible qui lui avait ravi son fils et son amant. Je l'avais fait transporter hors de la Villa Funeste. Mais son état ne m'avait pas permis d'en faire davantage et de l'éloigner de Naples. Ce fut avec un dévouement de frère, où se mêlait peut-être un sentiment plus vif, que je la soignais pendant ces longs, ces douloureux mois. Bien des fois, je la jugeais perdue, puis sa jeunesse et peut-être l'acharnement que je mettais à la sauver ramenaient l'espoir. Cette fois, je triomphais décidément. Depuis quelques semaines, la convalescence s'établissait. Mais ce n'était que le corps qui commençait à renaître, la nature toute puissante hâtait son œuvre de réparation, tandis que l'esprit trop faible encore sommeillait. Ce n'était pas sans une vive terreur que j'attendais le réveil du sentiment. Qu'allait-il advenir lorsque la blessure de l'âme se rouvrirait ? Quand à la fièvre qu'on peut dompter, succéderait le désespoir impossible à guérir ? N'allait-on pas me reprocher d'avoir arraché sa proie à la mort consolante ? Et en somme, pourquoi l'avais-je fait ? Un sentiment égoïste, un espoir inavoué, ne m'avait-il pas guidé ? Avais-je bien le droit d'imposer ainsi la vie à qui n'en voulait plus ? Ces pensées ne me venaient que depuis la guérison. Durant la lutte avec la maladie, je n'y avais pas songé. Cette fois encore, la nature m'aiderait sans doute à triompher du danger. J'emmènerais Claudie à loin, bien loin, sous un autre ciel, et peu à peu, l'égoïsme de la vie la reprendrait, elle me remercierait de l'avoir sauvée, et qui sait ce qui arriverait encore. Cette promenade qu'elle allait faire, c'était la première que je tentais. Si elle la supportait bien, encore quelques jours, et nous nous embarquions. Je disposais des coussins dans la calèche, je m'informais si les chevaux n'étaient pas trop vifs, je fis 1000 recommandations au cocher, puis j'allais chercher ma pauvre malade. Elle descendit sans savoir, sans questionner, machinale. Ce n'était plus une femme maintenant, mais c'était encore une bien belle statue. Je l'installai le mieux possible et l'on se mit en route lentement. Une femme de chambre était avec nous sur le devant de la voiture. Nous traversâmes la ville tumultueuse par le plus court. J'avais hâte d'être en pleine campagne. L'air était très doux, le ciel resplendissant. Une vraie journée de convalescence. J'épiais le visage immobile de ma compagne. Il était tranquille, sans expression. Les yeux, cependant, regardaient avec une sorte d'avidité. La pensée n'était pas revenue, mais je la devinais toute proche et menaçante. Pourvu que rien ne vînt précipiter la crise. Je ne sais pourquoi, je désirais qu'elle ne se déclarât qu'en pleine mer. Cette immensité me semblait capable d'amoindrir un peu les douleurs humaines, et puis je serais mieux là pour parler d'espérance, de vie future, pour appeler Dieu à mon secours. Claudire parut s'intéresser au jeu du soleil couchant, ses lueurs semblaient la fasciner. Mais je me hâtai de revenir, ne voulant pas que le crépuscule nous surprît dehors. Hélas ! En entrant dans la ville, un embarras de voitures nous arrêta. Je me penchai pour voir ce qui arrivait. À peine avais-je tourné la tête qu'un cri horrible de Claudire me traversa le cœur. Une fillette avait sauté sur le marchepied de la voiture, les mains pleines de fleurs, et en riant, elle tendait vers nous un gros bouquet rouge, fait de ces fleurs maudites, meurtrières, épouvantables, un bouquet de fleurs serpents. Je poussai une affreuse imprécation, tandis que d'un geste brusque, la femme de chambre rejetait sur la chaussée la misérable enfant qui nous perdait. C'était trop tard. Claudie avait vu, Claudie avait compris. Ce cri était le premier et le dernier de son âme réveillée. Elle s'était levée toute droite, mais elle se rejeta bientôt sur les coussins, en riant d'un rire atroce. La pensée s'était envolée pour jamais. La fleur serpent avait achevé son œuvre. Ces souvenirs douloureux, je les écris sur le paquebot qui m'emporte, pour toujours, je ne sais où. Est-ce vraiment le hasard seul qui a dirigé les événements de cette fantastique aventure? Pour moi, je ne puis le croire, et je vois clairement la vengeance du mort dans tout cela. Je crois même que la folie de Claudire est due à une dernière faiblesse de l'amant dédaigné pour celle qu'il adora, car si j'en juge par le vide affreux de mon âme, par cette impossibilité où je suis de me rattacher à rien, la douleur de Claudire eût été irrémédiable, et la fleur serpent lui a fait grâce en lui ôtant le souvenir.